franceinter.fr.
Bonjour, chers écouteurs.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
La mémoire des victimes du franquisme.
Il est debout dans un réfrigérateur siglé aux couleurs de Coca-Cola. Il regarde fixement le visiteur derrière ses lunettes de soleil. Revêtu de son uniforme de général, il semble plus vrai que nature. Le dictateur Francisco Franco, ou plutôt sa statue en polyester et en résine, défraie la chronique à Madrid. L'œuvre s'intitule « Always Franco », installée par l'artiste Eugenio Merino. L'objectif de la statue est revendiqué, faire réfléchir les observateurs à l'influence quotidienne de Franco, qui, selon Merino, survit en Espagne 36 ans après la mort biologique du généralissime. Le sculpteur cite par exemple les procès contre le juge Garzón, accusé notamment d'avoir instruit les crimes du franquisme contre une loi d'amnistie.
Franco au frigo, c'est l'œuvre qui fait parler à l'ARCO, la Foire internationale d'art contemporain de Madrid. Garzón au placard, c'était l'objet de manifestations peu auparavant, le 12 février. Depuis ses poursuites contre Pinochet, le président de la 5e chambre d'instruction de l'Audience nationale avait gardé l'oreille de l'opinion internationale. Mais en Espagne même, ses coups de boutoir multiples dans toutes les directions lui avaient fait perdre peu à peu tout soutien partisan. Beaucoup de familles de victimes du franquisme comptaient cependant sur lui pour inscrire les morts tragiques de leurs ascendants dans un contexte de crime contre l'humanité. C'est justement ce que ne voulaient surtout pas les adversaires du juge. Mais l'élimination d'un acteur ne suffit pas à effacer une demande sociale qui reste à instruire et qui ne le saura totalement que s'y participent aussi à la tâche les tribunaux, les politiques, les historiens, lesquels tiennent à dissocier, on le sait, du devoir de mémoire qui apaise le travail d'établissement des faits qui laisse toujours dans l'inquiétude. Patrick Pépin, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Je ne sais dans quelle catégorie je vais vous ranger. Allez, journaliste plus que juriste, mais pas mal historien aussi. Vous avez longtemps travaillé dans cette maison et depuis plusieurs années, vous enquêtez sur le sujet qui nous intéresse. Vous avez par exemple publié, après des documentaires à France Culture que vous aviez réalisés, les mémoires intimes de la guerre d'Espagne. C'est aux éditions Nouveau Monde. La violence du coup d'arrêt à la carrière de Garzón, ça montre qu'il avait touché un point très sensible.
Ça, c'est certain, parce que le juge Garzón s'est occupé de quatre dossiers essentiels de la vie politique espagnole, de la vie publique espagnole depuis plus de 20 ans. Il y a le fameux dossier du Gal. Vous savez, ces attentats contre les gens de ETA en Pays Basque français, financés à l'époque par le ministre de l'Intérieur du gouvernement du Parti Socialiste Ouvrier Espagnol de Felipe González. Il a enquêté sur les dictatures argentines et chiliennes en toute impunité, en arrivant au point de mettre aux arrêts M. Pinochet en Grande-Bretagne. Il a été gestionnaire du probablement dossier le plus complexe, qui est l'affaire de l'appareil légal de ETA pendant des années. Et à partir du moment où cet homme traite le dossier des morts du franquisme et des crimes contre l'humanité du franquisme, à partir de ce moment-là, sa carrière connaît un coup d'arrêt d'une brutalité incroyable.
Et tombe en pluie contre lui les procédures, parce qu'il n'y a pas que celle qui a abouti à son interdiction d'exercer pendant 11 ans, il y a de cela peu de jours. Il faut dire que longtemps, les seuls à être célébrés dans le souvenir de la guerre civile espagnole de 36-39, c'étaient les franquistes.
Ah ben, l'Espagne a vécu, en tout cas, j'ai l'impression depuis 1940, avec une sorte de mémoire hémiplégique. C'est-à-dire que de 1939, fin de la guerre civile, jusqu'en 1975, ou disons 1976, pour que les choses soient plus claires. 75, c'est la mort de Franco. 76, c'est le début du processus de démocratisation. Il n'y a qu'une demi-Espagne qui est célébrée, qui est reconnue, qui a droit à des commémorations. C'est l'Espagne qui a participé aux luttes à la guerre civile du côté des vainqueurs, puisque Franco avait divisé l'Espagne en deux camps, en deux classes, les vainqueurs et les vaincus.
Écho d'un rassemblement du souvenir en 2011 autour de la mémoire de Franco et aussi de Primo de Rivera, le fondateur de la Falange. Espagne, une grande, libre, debout, debout l'Espagne. Vous allez reconnaître, Patrick Pépin, la chanson, puis aussi le lieu numéro un du souvenir franquiste qui ensuite est présenté.
Arriva España.
Arriba.
España.
Cuba.
España.
Dale.
España.
Libre.
Francisco Franco.
Presente.
José Antonio Primo de Rivera.
Presente.
Caídos por Dios y por España.
Presente.
Arriba España.
Arriba. Me hallarán la muerte si me lleva y a mis compañeros que hacen guardia sobre los cruceros.
Une croix de 150 mètres de haut, une esplanade de 30 000 mètres carrés et une basilique creusée à même la roche, c'est une tombe de dictateur entretenue par l'argent public d'une démocratie. Le Valle de los Caídos, Vallée des Morts, a été construit par Francisco Franco dans les années 40. Après la guerre civile, il y a enterré ses soldats avant d'y être lui-même inhumé. L'endroit glacial est à la mesure de la mégalomanie du Caudillo. Et sur sa tombe, on croise encore quelques nostalgiques.
Franco a conduit l'Espagne en avant. Il nous a donné du travail et nous avons bien vécu. On doit penser à lui comme une grande figure de l'Espagne.
Pour les autres, ce lieu n'est qu'un monument historique.
C'est l'histoire d'une autre génération.
Nous, on ne sait pas, on ne comprend pas et on ne veut pas savoir.
Tout oublié, c'est à ce prix que l'Espagne a tourné la page il y a 30 ans. Aucun panneau n'explique d'ailleurs que l'édifice a été construit par des prisonniers politiques républicains.
Le mot « oubli » est prononcé dans ce reportage de TF1 qu'il faut dater. Il date d'il y a peu d'années, 2006, dans la période qui suit immédiatement la mort de Franco. Vous nous avez rappelé qu'elle était intervenue en 1975. Et le début de rétablissement de la démocratie, on ne parle pas d'oubli, on fait le choix de l'amnistie.
Alors, en 1977, après une année de lutte absolument incroyable en Espagne, avec des morts partout, aussi bien à Madrid qu'en Pays Basque, etc., une loi d'amnistie est prononcée, qui est la loi d'amnistie de 1977. Cette loi d'amnistie dit quelque chose de simple. Elle dit que tous les délits politiques commis avant 1976 sont exonérés de toute poursuite. Cette loi d'amnistie ne dit pas qu'il ne faut pas regarder dans ce qui a pu se passer pendant la guerre civile ou après la guerre civile comme exaction d'État. C'est les délits politiques. En réalité, c'est plutôt la gauche et les mouvements nationalistes basques qui essayent de libérer leurs prisonniers qui sont encore dans les geôles franquistes qu'autre chose. Donc, il y a cette loi d'amnistie
qui est votée par 296 voix sur 317 au Cortés.
Oui, oui, c'est assez majoritaire parce que tout le monde a envie un petit peu d'en finir et puis la situation sociale est extrêmement tendue. Le seul problème, c'est que cette loi d'amnistie qui est logique. Regardez, après l'édit de Nantes, on décide de ne plus parler de ce qui s'est passé. On retrouve dans tous les pays où il y a eu le passage d'une dictature ou d'un État très très fort à une situation différente, on trouve une loi d'amnistie. Sauf qu'en Espagne, cette loi d'amnistie s'est doublé d'une situation d'amnésie de ce qui s'était passé pendant une période extrêmement longue.
On ne le sent pas encore comme ça à l'époque, parce que l'opinion espagnole, vous dites qu'elle est inquiète des tensions sociales, elle est composée pour l'essentiel de gens qui n'ont pas vécu directement la guerre civile, 30% seulement des Espagnols qui sont encore dans la péninsule l'ont connue, et puis il y a le désir de modernité, d'ouverture vers l'Europe. C'est ça qui passionne, paraît-il, les gens qui disent en Espagne à l'époque « allons en avant ».
Mais il y a une volonté très très forte, parce qu'en réalité, sous la dictature, d'ailleurs comme sous les dictatures staliniennes dans les pays d'Europe centrale et orientale, il y a toujours des mouvements, il y a des choses qui se mettent en place. Puis l'Espagne, ne serait-ce que pour des raisons économiques, est obligée de s'ouvrir, les touristes sont venus, les étudiants espagnols sont allés étudier à l'étranger, etc. Donc c'est quand même un pays en même temps qui a changé et qui, sous le regard des Européens ou avec le regard que les Espagnols ont eu sur l'Europe, ont envie, tout le monde a envie de passer de l'autre côté.
Et puis le franquisme a duré si longtemps qu'il a dû se constituer une ou des bases sociales.
Alors le franquisme, c'est, je crois, quelque chose d'essentiel ce que vous venez de dire, Jean. Le franquisme, c'est quand même la dictature la plus longue des dictatures de droite du milieu du XXe siècle. Le franquisme, la dictature commence en réalité au moment du coup d'État de 1936 dans les territoires occupés par les franquistes et elle va durer sans interruption jusqu'en 1975. On est donc dans une dictature extrêmement longue. C'est près de 40 années. Si on le compare aux autres dictatures qu'on a pu connaître en Europe, on est dans quelque chose de beaucoup plus long. Si on le rapporte à la dictature de Pinochet qui a duré 17 ans, il y a eu une sédimentation très très forte pour des raisons de durée.
Sédimentation, il y a une bourgeoisie qui en a profité.
Alors, ce qu'il y a eu de très particulier, c'est que pendant la guerre civile, il y a non seulement eu l'éradication des républicains, donc d'une partie y compris de la moyenne et haute bourgeoisie espagnole, mais il y a eu spoliation. Pourquoi une spoliation ? Parce que pour le régime, ça a été une occasion absolument formidable de se constituer une base sociale. Et on connaît le cas de grandes familles qui étaient propriétaires de terres et de terres importantes, qui étaient des latifondières quasiment, qui, parce qu'ils avaient un membre de la famille qui était un avocat ou un médecin et qui était médecin des pauvres, ils se sont retrouvés absolument dépossédés de tout du jour au lendemain.
J'ai pas dit que vous avez été élevé en Espagne, c'est le cas de la famille de votre beau-frère.
Oui, dans la famille de mon beau-frère, ça s'est produit comme ça, en Extrémadure, du jour au lendemain. Cette famille-là s'est retrouvée dépossédée de tout.
Sédimentation, bénédiction par l'Église.
Alors, l'Église d'Espagne est une Église très très particulière. C'est une Église qui, d'entrée de jeu, dès que la République s'installe le 14 avril 1931, propose que l'on prenne les armes pour lutter contre l'impie, c'est-à-dire contre la République qui veut installer une loi de laïcisation. Cette Église est extrêmement puissante. C'est entre 100 et 150 000 prêtres religieuses à travers tout le pays. Ce sont des mouvements de masse extrêmement importants. Et donc cette Église prend tout de suite parti, dès le début du soulèvement militaire, pour les franquistes et prend parti avec tout cet appareillage dont on vient de parler, mais surtout apporte une contribution essentielle au soulèvement. C'est d'abord la légitimation du fait. Ce n'est pas une guerre civile qui se déroule en Espagne, mais c'est une croisade, dit un évêque, à l'égal des croisades du Moyen-Âge. C'est une église qui apporte l'appareil idéologique aux militaires qui n'en avaient absolument pas. Et c'est enfin une église qui apporte le concours diplomatique du Vatican pour que le franquisme puisse être connu sur la scène internationale.
Inutile de dire que dans la base sociale du franquisme, qui demeure même après la mort du caudillo, il y a l'armée. Et c'est d'ailleurs de certains secteurs de l'armée que vient, peu d'années après, la tentative de coup d'État de février 1981.
Au Cortès, donc, hier en fin d'après-midi, quelques 350 députés voient surgir un lieutenant-colonel de la garde civile, revolver au poing. En quelques instants, ce sont près de 200 gardes civils qui vont investir l'Assemblée. Le vice-président se lève, s'en prend au chef de la garde civile. Et tout le monde se couche, sauf cet homme au premier rang, le premier ministre démissionnaire, Adolfo Suarez, qui va tenter de venir en aide au vice-président de l'Assemblée, quelque peu maltraité par le lieutenant-colonel Terrero, le chef des insurgés. Et va maintenant commencer ce qui semblait bien être la première nuit du coup d'État de Madrid, avec sans doute la prise d'otage la plus spectaculaire, celle d'un Parlement.
En plus de ces deux hommes courageux, ajoutons le nom de Santiago Carrillo, le leader du Parti communiste espagnol, qui lui aussi est resté debout. On n'a pas revu les images de l'enceinte des Cortes à la télévision après la première diffusion. La démocratie a dû se sentir extrêmement fragile et on a choisi là de sceller le silence, de fermer la dalle et de construire dessus.
Vous avez tout à fait raison. Il se passe un phénomène très particulier. À partir de 1976, dans un certain nombre de villages d'Espagne, les gens qui connaissent les lieux, les fosses où ont été fusillés des républicains, commencent un travail d'exhumation. Ça se passe principalement dans deux régions, dans le nord de l'Espagne.
On en parlera tout à l'heure, oui. Mais c'est plus tard.
Et ce travail commence.
Ah oui, c'est...
Et à partir de 1980, avec la tentative du coup d'État, la machine s'arrête complètement. Et on parle de ce fameux entretien qu'avait pu avoir Gutiérrez Mellado, qui était à l'époque le ministre de la Défense, avec Felipe González, qui allait prendre, lui, le pouvoir quelques mois plus tard. Et il lui dit, surtout, ne touche pas à ce dossier. L'affaire est beaucoup trop vive dans l'armée. Et tu aurais des problèmes. Et donc, à partir de 1981, j'ai envie de dire quasiment jusqu'aux années 2000, il y a une sorte de chape de plomb sur ce dossier.
Tout de même, on restitue non pas les biens des propriétaires, mais parfois les biens des syndicats.
Oui, alors il y a une restitution partielle, notamment toutes les grandes institutions, pas toutes, mais une partie des syndicats récupèrent une partie des biens dont ils avaient été spoliés entre 1936 et 1939, au fur et à mesure que la guerre avançait.
Et puis on ne peut pas dire que rien ne se passe, puisque il y a aussi la possibilité qui va être ouverte de récupérer la nationalité. On va prendre un exemple. On est 14 ans après le coup d'État, en 1995, et il s'agit des brigadistes, les anciens des brigades internationales qui, d'un peu tous les pays d'Europe, étaient venus rejoindre le combat des républicains.
À l'unanimité, les députés ont voté un projet de loi accordant la citoyenneté espagnole à tous les survivants des brigades internationales qui avaient combattu le franquisme en 1936, parmi lesquels Théodule Francos.
On se trouvait à Carillon en descendant de Teruel, c'était l'état-major, et quand je me suis mis à la fenêtre, j'ai vu arriver les phalangistes et les morts, et il fallait sauver l'état-major. Et j'avais un camarade asturien, lui il s'est bourré de dynamite, il est sorti, il dit « pendant que je vais sortir, je vais me faire sauter et vous allez pouvoir partir ». Sorti sur le derrière. Et c'est comme ça qu'on a pu sauver l'état-major.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Patrick Pépin, l'auteur d'Histoire intime de la guerre d'Espagne aux éditions Nouveau Monde, nous parlons aujourd'hui de la mémoire des victimes du franquisme. L'accès à la nationalité en Espagne pour les anciens brigadistes, plus tard pour les fils ou les petits-fils s'ils le désirent. Dites-moi, en Espagne on est plus généreux pour l'accès à la nationalité qu'en France ?
Très certainement, très certainement. Et c'est vrai que très vite, et même, j'ai envie de dire, sous le franquisme, certains enfants de républicains réussissent à obtenir la nationalité espagnole, s'ils le souhaitent. C'est vrai qu'il y a ce geste d'une très grande générosité qui est de faire des citoyens espagnols des brigadistes internationaux. C'est-à-dire qu'on considère que les quelques années ou les quelques mois, pour certains, qu'ils ont pu passer en Espagne au combat, valent. Certificat de nationalité. Mais si l'on remonte plus loin, on se rend compte que l'Espagne, de ce point de vue-là, a toujours été plus généreuse. Lorsque, à la fin du 19e, début du 20e siècle, l'Espagne redécouvre ses juifs, les séfarades, qui avaient été expulsés d'Espagne en 1492, ils leur reconnaissent le droit à la nationalité espagnole. Ça ne se fait pas tout de suite, mais ça se fait. Donc on se rend compte, c'est 5 siècles plus tard, une sorte de reconnaissance dont je pense qu'il y a peu de pays qui seraient capables d'accorder la nationalité avec cette libéralité.
Ça ne se fait pas tout de suite en 1995, mais quelques années plus tard, les descendants, les fils et les petits-fils peuvent faire la demande, si leurs parents étaient des républicains combattants, de retrouver la nationalité espagnole. Là, on va entendre un témoignage venu de l'exil. C'est important, les capitales de l'exil dans la mémoire républicaine espagnole. Et parmi elles, il y a Toulouse.
Il y a 2 grandes villes républicaines en France. C'est Toulouse qui a été la capitale de la République espagnole après la guerre civile. Il y avait Mexico. Et en France, il y avait encore Bordeaux.
Alors à Toulouse, se sont arrêtés beaucoup de combattants qui avaient quitté l'Espagne par les chemins et par les cols, la retirada, au début 1939. Un jeune homme de Toulouse, d'origine espagnole, Thomas Jiménez, interrogé par Élise Andrieux et Rafik Zénine, un documentaire de France Culture.
Mon grand-père, Manuel, est né à la campagne, un tout petit village à côté de Séville. Je crois qu'il a quitté l'école autour de 8-9 ans. À 14 ans, il a commencé à avoir ses premières initiations, on va dire, politiques, hein, puisque c'est là qu'il est devenu vendeur d'El Mundo Obrero. Le Mundo Obrero, c'est le journal communiste. Donc il a commencé à rentrer dans ce monde-là. Au fur et à mesure, il s'est intéressé à la politique. Hein. Et au moment de l'éclatement de la guerre civile, il s'est engagé donc dans l'armée républicaine en rejoignant des CNTistes. Como si fueran corderos, pobrecita madre, cuanto llorará al ver que tus hijos en la guerra van. Pobrecita madre, cuanto llorará al ver que tus hijos en la guerra van. Pobrecita madre, cuanto llorará al ver que tus hijos en la guerra van. Pobrecita madre, cuanto llorará al ver que tus hijos en la guerra. En 1939, au moment de la retirada, au moment de la défaite de l'Ebro, ça tombe autour de novembre 1938, il a quitté l'Espagne, il a passé la frontière au niveau d'Argelès, arrivé à Argelès, il s'est retrouvé en camp de rétention d'Argelès. Santa Barbara, bendita, trai-la-lai-lai-lai, trai-lai-lai. Santa Barbara, bendita. Trai la lai lai lai, trai lai lai. Patrona de los mineros, mira, mira Malusiña, mira, mira como vengo yo.
Thomas Jiménez, qui est à Toulouse, reprend le répertoire issu de son grand-père et le réaménage à nouveau frais.
Et une chanson qui est très deuxième chanson qu'on a écoutée de lui est une chanson très très connue puisque c'est la chanson des mineurs asturiens et qui parle de Sainte Barbe qui est la patronne des mineurs et c'est une chanson extrêmement émouvante. Là il la chante avec un rythme un peu particulier mais quand elle est chantée à l'ancienne elle est encore plus touchante.
Oui mais on n'est plus au temps de l'ancien. Maintenant, c'est le temps des petits-enfants. Patrick Pépin qui commence à la fin des années 90, au début des années 2000. Ce sont les petits-enfants qui réactivent la mémoire familiale ou la mémoire de contrebande, je ne sais quel mot utiliser.
Alors, je voudrais juste revenir sur un point, Jean, qu'on n'a pas évoqué. Quand on parle de l'exil, il faut se rendre compte que non seulement il y a eu les morts de la guerre civile, mais il y a eu 1 million d'exilés. C'est-à-dire, il faut se rendre compte de ce que ça veut dire à cette époque. L'Espagne est un pays qui ne fait pas 30 millions d'habitants. Et tout d'un coup, il y a une espèce d'hémorragie comme ça, absolument, absolument incroyable. Alors oui, le travail de mémoire a une particularité, c'est qu'il procède par soubresauts. Et on s'est rendu compte pendant des années que les victimes se sont tues. Les enfants de ces victimes ont été épargnés par les parents de crainte qu'ils vivent toujours avec le stigmate d'enfants de rouge et que c'est une fois la démocratie arrivée, l'âge venant pour les victimes elles-mêmes, qu'ils font une transmission aux petits-enfants qui, eux, les interrogent. Et c'est cette affaire du travail de mémoire en Espagne est une affaire de petits-enfants. Et arrière-petits-enfants maintenant, au fur et à mesure où le temps passe. C'est eux qui ont vraiment relancé complètement le débat. Et la personne qui a ouvert la brèche, qui a ouvert, quand je dis la brèche, en même temps qui a ouvert la première fosse commune pour y trouver le corps de son grand-père, c'est un petit-fils.
Et c'est un journaliste.
Et c'est un journaliste.
Les nouvelles générations savent comment s'adresser aux médias, c'est Emilio Silva.
Oui, alors il n'y a pas que ça, c'est qu'Emilio Silva part faire une enquête comme si de rien n'était. Il démarre son enquête et il rencontre la tombe de son grand-père, la fosse commune dans laquelle est son grand-père. Et il lui arrive une aventure à laquelle il ne croyait pas, c'est qu'il fait savoir dans la presse locale de la région d'Espagne dans laquelle il était, qui est le Bierzo, il fait savoir qu'il recherche le corps de son grand-père et qu'il, s'il y a d'autres personnes dans ce cas-là, ils pourraient se mettre ensemble pour essayer de résoudre ce problème. Et là, son répondeur, puisqu'il laisse son numéro de portable, est complètement saturé. Et de là naît l'Association pour la récupération de la mémoire historique, puisque tel est le nom de son association.
Récupération ou réhabilitation ? Parce qu'il vous arrive de traduire récupération par réhabilitation dans vos livres.
J'ai trouvé que réhabilitation était plus cohérent que le mot récupération, qui me semblait plus adapté à l'espagnol. Et au français, c'était réhabilitation qui me semblait plus adapté.
L'emplacement n'est pas oublié dans les villages ?
Alors écoutez, là il y a quelque chose de très particulier. Si on regarde le travail qui a été fait, lorsque j'ai écrit mon livre, il y avait à ce moment-là quelque chose comme, en 2005, 600 fausses communes identifiées. Aujourd'hui, nous en sommes à 2600. Mais les gens n'ont pas oublié. Certaines ont été oubliées parce que les lieux ont beaucoup bougé, parce que l'Espagne s'est modernisée, parce que les autoroutes se sont multipliées. Mais beaucoup de gens savent exactement où étaient les fosses. Et dire qu'aujourd'hui, il y a 2600 fosses. Alors, par fosses, on entend bas-côté de la route, on entend des bois, on entend la montagne, on entend les fosses communes dans les cimetières, on entend toutes sortes de lieux. La terminologie est très générale.
Reportage en Castille de Philippe Reltien.
Au-dessus des champs de blé de Castille, comme le rapace surgit des brumes estivales, voici le château fort monastère Duclès. Et dans ses fossés, les tombes ouvertes du cimetière de la Tahona.
On entre dans le cimetière de la Tahona par une grille en fer forgé et quelques marches en granit.
Ici, on commence déjà le fossé des fusillés.
Ça, c'est les fosses des fusillés.
Oui.
Où peut bien être enterré mon père ? Oui, ici, il est ici.
Mais où exactement ? Les soldats républicains blessés à la bataille de Teruel ont fini ici, exécutés avec de nombreux civils au pied des douves, quand le monastère est tombé aux mains des franquistes. Cela s'est passé entre 1939 et 1942, toujours à l'aube, commence Angel. La garde civile prenait position sur les collines pour que personne du village ne puisse voir en contrebas le peloton d'exécution. L'association a trouvé la liste des 317 fusillés à l'archevêché. Mais comme les tombes sont sans croix ni nom et qu'ils sont encore 300 sous terre, il va falloir attendre un autre été que tous soient remontés à la surface pour dire qui est qui.
Le juge Garçon estime à 114 000 cadavres le nombre des morts, des enterrés, des fosses communes. On en a pour l'instant dégagé 5 500. C'est difficile pour les politiques d'accompagner ce mouvement de demande sociale. Ils l'ont un peu fait. Alors, autour de Zapatero, petit-fils de républicain espagnol en 2006.
On est toujours un peu dans la demi-mesure. C'est-à-dire qu'en même temps, lorsque Zapatero prend le sujet, je crois qu'il est habité par quelque chose de très fort. Il pense que c'est un objectif politique qu'il faut atteindre. Alors, les deux quinquennats de Zapatero ont été... Les deux gouvernements de Zapatero ont été des gouvernements extrêmement qui ont travaillé sur le sociétal. Et donc cette question-là est très très forte pour lui. Elle est très forte à titre personnel, puisque c'est un petit-fils d'officier républicain loyal. Et puis en réalité, la loi va un peu s'étioler au fur et à mesure où elle est discutée, où elle est débattue, pour qu'elle soit acceptable par tout le monde. Et du coup, elle est beaucoup moins puissante et beaucoup moins forte. Parce qu'en réalité, ce qu'attendaient les associations et la société civile, c'était qu'on donne les moyens pour aller identifier ces 2600 fosses clairement et qu'on puisse effectivement, à partir de là, commencer un travail d'exhumation. Vous savez, chaque exhumation coûte un argent fou. Et actuellement, ce sont les associations qui font ça elles-mêmes.
Si, il y a la Catalogne et le Pays Basque qui financent. Alors, parce qu'il y a des gouvernements locaux puissants.
Voilà, alors il y a des régions qui ont joué tout de suite le jeu, mais peut-être parce qu'elles étaient parmi les plus impliquées. Non pas parce qu'elles avaient eu le plus de morts, mais parce qu'elles étaient les plus impliquées dans l'opposition à la droite parlementaire espagnole, qui est une droite quand même très particulière, et c'est la Catalogne et le Pays Basque.
Alors le droit est là aussi avec la loi Amnistie de 1977. Alors on peut faire comme Garzón, travailler sur le fil du rasoir, mais on risque de tomber, c'est ce qui lui est arrivé. Est-ce que vous diriez, dernière question, Patrick Pépin, que cette transformation de la mémoire des victimes, ça a aidé à la divulgation du travail des historiens ou bien ça l'occulte ?
Alors, il y a deux travaux parallèles. Il y a eu un travail de fond qui a été complètement masqué, qui était celui des historiens qui ont fait un travail d'une précision absolument incroyable, notamment l'équipe d'histoire contemporaine de l'Université de Saragosse, qui a travaillé village par village et qui a vraiment fait un travail de fond. Et de l'autre côté, il y a eu le mouvement social qui s'est mis en avant. Et un des plus grands historiens espagnols de cette période, qui est Santos Julia, a reconnu que le travail de mémoire impulsé dans la société espagnole avait obligé les historiens à aller plus loin et aller plus vite.
Merci à vous, Patrick Pépin. Je rappelle votre publication aux éditions Nouveau Monde. C'était il y a peu d'années. Histoires intimes de la guerre d'Espagne. L'émission a été préparée par Camille Poux-Jalaguier avec Frédéric Martin et Franck Olivard. Réalisée par Jacques Sigal avec Cédric Lalanne et Ronan Mahé. Demain, nous parlerons de la publication en français du journal de Ben-Gourion pour la période 47-48.